toujours avec le Père Willem.
Dieu, le seul objet de notre espérance. On comprend mieux, peut-être, pourquoi nous avons passé tout le temps de ces derniers jours à montrer ce que l'espérance n'était pas. Ce n'est pas un simple exercice préalable. Refuser ces faux espoirs, c'est déjà un acte d'espérance. C'est n'attendre son salut que de Dieu, ne l'attendre que de lui, c'est déjà le recevoir. Je serai avec toi. La promesse porte une exigence démesurée, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà pourquoi nos difficultés actuelles sont pour nous une chance inespérée. Nous sommes un peu brutalement dépouillés de bien des fausses sécurités et nous voilà donc acculés à espérer en Dieu. Nous avons l'occasion de nous intéresser à Dieu lui-même, au salut qu'il nous offre, sans être aveuglés par tout le fatras de triomphe mondain, d'équilibre politique et de consolation bien humaine qui n'ont cessé de l'accompagner durant des siècles. Dieu lui-même est donc le seul objet de notre espérance. Ce n'est pas sans conséquence, car cela change peut-être le sens que nous donnons au verbe espérer. Non que l'espérance chrétienne soit d'un tout autre genre, sans lien avec ce que nous nommons communément espérance, mais cet objet singulier ne s'espère pas tout à fait comme on espère qu'il fera beau dimanche ou que Camille aura son examen. D'ordinaire, espérer, c'est désirer avec force et pour l'avenir. Désirer. Désirer simplement. Ce n'est pas encore espérer. Si je désire une part de gâteau que j'ai sous les yeux, je n'espère rien, je le mange. Cette dimension future de l'espérance est importante, car elle s'accompagne en général d'une certaine anticipation. On se figure ce qui va arriver et le bonheur qu'on aura, on va pouvoir retirer des raisons de vivre mieux. L'espérance courante est une attente qui comble son vide par l'imagination de ce qui viendra la remplir. L'espérance en Dieu, elle, ne peut pas se figurer. Les images populaires et naïves du paradis n'ont réussi qu'à le ridiculiser et en faire, dans la culture commune, un lieu un peu mièvre où pourront s'épanouir les moins dégourdis des enfants du catéchisme. Dieu dépasse ce que nous pouvons imaginer de lui et de beaucoup. L'espérance chrétienne ne peut se confondre avec ces anticipations bien sympathiques qui ne disent rien de Dieu. Le Dieu vivant n'a pas grand-chose à voir avec nos constructions préalables. Il est là. Il est là tout simplement où on ne l'attend pas. Et il surprend, dérange, comble de façon toujours inattendue. C'est même à cela qu'on le reconnaît et qu'il se distingue des dieux, des théologies naturelles et des diverses grandes horlogers que l'intelligence humaine a voulu se donner comme tout puissant sous contrôle, enfermé dans son concept, manipulable comme n'importe quelle hypothèse. Le Dieu vivant reste libre de nos définitions, c'est ce qui le rend tout à fait perturbant et tout à fait merveilleux. L'espérance chrétienne n'est d'ailleurs pas une attente, elle ne prend pas sa source dans notre besoin ou notre manque que nous cherchons à combler d'une manière appropriée. Elle n'est possible que parce que Dieu s'est donné le premier. Il ne s'agit pas d'attente, mais de don, d'un don que nous devons simplement recevoir. Contrairement à l'objet de nos espérances courantes, Dieu n'est pas à venir ni à attendre. Il est déjà donné et la seule difficulté consiste à accepter ses dons. Espérer, c'est déjà posséder. C'est ce que disent les théologiens dans leur jargon technique quand ils assurent que l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui a Dieu pour objet et surtout qui donne un accès direct à Dieu. L'espérance, ce n'est pas seulement une manière d'attendre Dieu, mais encore de le posséder. Nous n'oserions parler sans doute de posséder Dieu si les théologiens les plus éminents de la tradition catholique n'en avaient eu cette audace avant nous, avant les chrétiens que nous sommes. Naturellement, l'expression doit être bien comprise. On ne possède pas Dieu comme on possède une voiture ou de l'argent en banque, mais plutôt comme on a un ami. On le connaît, cet ami. On le connaît, certes, mais on n'en a jamais fait le tour. Il peut toujours nous surprendre, cet ami. Il est à la fois connu et inconnu. Et plus nous le connaissons, plus nous prenons conscience de sa part de mystère. Commencer à le connaître, c'est comme plonger dans l'océan. On n'est pas prêt d'avoir épuisé la question. Cette possession n'est pas un projet, mais déjà une réalité. Notre espérance ne renvoie pas la réalisation à plus tard, à l'infini. C'est Dieu qui est infini, ce qui est bien différent. C'est ainsi, sa possession peut être présente, effective, tout en restant toujours incomplète, perfectible, est à la fois le présent et l'avenir. Nous n'espérons qu'en Dieu, parce que nous osons le posséder déjà. Voilà qui nous éclaire d'un jour nouveau la maxime souvent citée de saint Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Loin d'être un appel à nous contenter modestement du peu que nous avons, qui n'est déjà pas si mal, l'évêque d'Hippone souligne que Dieu est la seule réalité que nous pouvons à la fois posséder et continuer à désirer dans le même temps. Dieu est à ce titre le seul objet d'espérance qui ne déçoit pas, parce qu'il ne cesse pas d'être une espérance quand il devient une possession. Espérer, c'est quelque chose de très concret. C'est croire que Dieu nous rend capables de poser des actes éternels, que quand nous aimons, cet amour n'est pas simplement un beau sentiment dans une marée d'absurdité vouée à la mort, mais une fenêtre que nous ouvrons sur l'éternité. Car ces actes éternels, ces actes que nous pouvons faire et dont le fruit est éternel, ce sont bien sûr les actes d'amour, les seuls qui comptent. Ce sont eux qui construisent dans notre monde l'éternité et le royaume de Dieu. La vie éternelle n'est donc pas une manière de s'évader, de chercher refuge contre le mal et la finitude de notre univers, dans des arrière-mondes imaginaires, ou renvoyés à un avenir surnaturel, comme on l'a reproché au christianisme, accusé de négliger la vie présente. Elle permet, au contraire, et très concrètement, de prendre notre monde au sérieux, en le regardant pour ce qu'il est, en donnant à chacun de ses éléments sa juste place, son juste poids. Transformer les événements en occasion d'aimer, c'est reproduire au quotidien le miracle de Cana. Vous en souvenez, c'est changer l'eau de la vie ordinaire en vie et en vin de vie éternelle. Il vaut la peine de s'exercer sur des petites choses. Oui, la vie nous donne des gens à aimer davantage. Toutes les situations qui se présentent nous donnent les occasions d'aimer et donc d'être heureux.